savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Tourlotin.
Tous les cinémas du monde prend ses quartiers d'été et vous propose de redécouvrir les meilleurs moments, les émissions spéciales des mois passés. Ce samedi, nous rediffusons l'émission que nous avions consacrée aux cinéastes algériens au printemps dernier. Comme vous le savez, depuis le 22 février dernier, les Algériens manifestent massivement pour demander un changement de régime. L'histoire s'écrit en ce moment en Algérie. Un sujet dont ne manqueront pas de discuter les réalisatrices invitées actuellement au Festival de Douarnenez. Quel est le rôle des cinéastes justement ? Une nouvelle période s'ouvre-t-elle pour le cinéma algérien ? Nous en parlions au printemps dernier avec plusieurs réalisateurs algériens. Hassan Mezine, bonjour.
Bonjour.
Votre documentaire sur Frantz Fanon, grande figure de la guerre d'indépendance algérienne, est en salle en France depuis une dizaine de jours. Malek Bensmaïl, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes documentariste. Nous vous avions reçu à ce micro il y a un an pour votre documentaire sur le film La bataille d'Alger et puis aussi sur le documentaire Contre-pouvoir. C'était sur le quotidien El Watan il y a quelques années. Et Nadir Moknesh, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur, entre autres, du harem de Madame Haussmann, de Viva l'Algérie, de Délice Paloma et plus récemment de Lola Pater.
La réalité est qu'un pays colonial est un pays raciste. Si en Angleterre ou en Belgique ou en France, en dépit des principes démocratiques affirmés par ces nations respectives, il se trouve encore des racistes, ce sont ces racistes qui, contre l'ensemble du pays, ont raison. Il n'est pas possible d'asservir des hommes sans logiquement les inférioriser de part en part. Et le racisme n'est que l'explicitation émotionnelle, affective, quelquefois intellectuelle, de cette infériorisation antérieure.
Commençons cette émission spéciale sur l'Algérie avec votre documentaire Hassan Mezine, un documentaire intitulé « Frantz Fanon, hier, aujourd'hui ». Frantz Fanon que l'on entendait à l'instant, c'était un extrait de son discours « Racisme et culture ». Fanon qu'Aimé Césaire appelait le guerrier silex, c'est un psychiatre dont la vie, la pratique, la pensée sont liées. Fanon né en Martinique mais enterré en Algérie. Alors pourquoi lui avoir consacré un film à lui particulièrement et pas à d'autres figures du FLN ou de la guerre d'indépendance algérienne ?
Alors parce que Frantz Fanon, peut-être qu'il a il a eu un rôle central dans cette révolution algérienne et qu'en même temps il a une particularité qui a été justement son parcours de psychiatre qui n'est pas arrivé en Algérie par hasard. Il a eu un parcours qui a été celui d'un Martiniquais qui a grandi dans le creuset républicain français et qui a été confronté au racisme et qui a été confronté à une certaine réalité de la France, notamment dans la période coloniale, et qui, de par son parcours, s'est retrouvé logiquement en Algérie, notamment dans une période où le racisme institutionnel était très présent, notamment dans le domaine de la médecine. On peut le voir par les fameuses théories de Antoine Porot, qui était à la tête de l'école de psychiatrie d'Alger, qui développait des théories vraiment racistes et dignes d'un Gobineau ou d'autres grands penseurs, entre guillemets, du 19e siècle en Europe. Donc en fait, Fanon, son cheminement l'amène à l'hôpital de Blida en Algérie. Et donc l'intérêt, c'était de montrer qu'en fait, quand on est pris de justice, quel que soit l'endroit d'où on vient, on peut se retrouver sur un terrain de lutte pour la justice, et c'est le parcours de Fanon.
Avant de venir plus avant sur votre documentaire, je voulais demander justement à Nadir et à Moknesh et à Malek Bensmaïl qui sont ici, si Frantz Fanon, c'est une figure dont on apprend le nom, dont on apprend la pensée à l'école, en Algérie, ou pas du tout?
Alors, on sait qu'il existe. Moi, je savais qu'il existait, mais j'avoue que je ne connaissais pas ses écrits. Moi, la période scolaire, c'est les années 70. C'est cette période-là où j'ai vécu à Alger, et donc où puisque je suis parti, j'ai quitté Alger à 16 ans. Donc j'ai fait ma scolarité jusqu'en seconde. Alors il existe, mais sans exister. Par contre, il y a un boulevard On sait que tel boulevard, c'est le boulevard Frantz Fanon. Et donc, c'est après, avec le temps, que j'ai découvert un peu plus Frantz Fanon ici en France. Mais en Algérie, c'est, en tout cas, dans le programme scolaire, n'est pas totalement présent. Et ça, on peut deviner. On peut dire pourquoi.
Effectivement, alors Malek Bensmail. Moi, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au bac, etc. Donc, non, Fanon n'est absolument pas du tout, enfin, dans les lycées, enseigné jusqu'à ce jour. Maintenant, la question fanonienne est très importante, bien entendu. Elle donne à voir et à comprendre toute la question de la guerre de libération et de la colonisation. Donc, je pense que sa pensée est très, très importante. J'ai fait un film qui s'appelait Aliénation, qui est une immersion au sein d'un hôpital psychiatrique. Et on est effectivement dans ce film-là, aussi dans la pensée fanonienne. Mais il y a quelque chose aussi dont il faut faire attention, c'est-à-dire de ne pas être enfermé nous-mêmes, et c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau des nouveaux mouvements populaires, de cette révolution populaire, c'est que cette révolution populaire essaye de se défaire justement de ces espaces muséales. C'est-à-dire de cet espace muséal.
Vous voulez dire de la mythologie du FLN.
C'est-à-dire la mythologie du FLN, mais aussi faisant attention aussi que le mythe Fanon et tout l'ensemble de ses pensées ne puissent pas aussi figer à une réflexion quasiment liée à un contexte qui était le contexte d'une colonisation, en le portant aujourd'hui à un autre contexte qui est celui d'aujourd'hui. Donc il faut qu'on fasse très attention à cela, parce que je pense que Fanon a traité de la question du trauma colonial. Il y a eu un autre trauma qui est celui de ce que j'appelle moi des guerres intérieures. La guerre intérieure, c'est celle des années sanglantes qui a engendré 200 000 morts et plus de 100 000 disparus, qui est un trauma donc de cette guerre fratricide, et puis un trauma vraiment véritablement post-indépendance. C'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce soulèvement, est lié vraiment et profond. Il n'est pas uniquement lié à un rejet du régime Bouteflika, il est lié à un rejet vraiment des idéologies, de deux idéologies importantes, l'idéologie effectivement du FLN et tout ce qui va avec, toute son administration, et donc tout ce qui est de l'ordre de la pensée type FLN, donc pensée unique. Et puis il y a aussi une idéologie qui est liée à un islam radical qui a été complètement torpillé ces dernières années. Donc voilà, il y a une question en tout cas qui est profondément liée à cela.
On reviendra à l'actualité de la pensée de Frantz Fanon, parce que c'est une grande partie de votre documentaire, Hassan Mezine. Pour revenir à Fanon, donc à sa pensée, donc il était psychiatre. En quoi sa pratique de la psychiatrie, vous l'avez un peu abordé, hein, mais l'a-t-elle conduit peut-être aussi à s'engager, et s'engager même en prenant les armes, donc en Algérie?
En fait, je pense que ce qui est toujours très intéressant dans un personnage comme Fanon, c'est le côté multidimensionnel de cet homme, c'est-à-dire que lui qui a été un psychiatre, qui en même temps s'est engagé en tant que militant, en tant qu'activiste dans la guerre d'Algérie, et c'est aussi un monsieur qui a eu la condition d'homme noir dans un contexte colonial. C'est-à-dire qu'en fait, ces trois dimensions, je pense qu'on peut pas les séparer les unes des autres, et c'est ce qui fait sa force. Et arrivé en Algérie, moi je pense que Fanon, en tant que Martiniquais, avec son histoire liée à l'esclavage, à la colonisation, quelque part a fait son marronnage en Algérie, avec un peuple qui faisait son marronnage contre le colonialisme français. Et c'est comme ça que j'aime à le voir. Alors pour revenir sur ce qui a été dit, moi je pense que Fanon, en effet, il faut pas le figer dans le passé, c'est le but de ce film. Et lui-même, Fanon, parlait toujours de cette idée d'être créatif. Et c'est la raison pour laquelle je pense que Fanon aujourd'hui est énormément d'actualité, parce que sa pensée n'est pas figée, contrairement à ce qu'il y a à la volonté qu'il y a eu justement, notamment comme en Algérie, d'en faire un musée. Il y a un musée qui vient d'être fait, notamment dans Ablida, dans la maison où il a habité, depuis le mois de décembre dernier. Et en fait, on essaye d'en faire une espèce d'agiographie pour le vider du contenu de sa pensée. Alors Fanon, en Algérie, en effet, on retrouve le même cas en Martinique aujourd'hui. Parce que Fanon dérange également en Martinique, c'est-à-dire qu'on a des rues, on a des hôpitaux, on a des écoles qui s'appellent Frantz Fanon, mais les gens ne savent pas qui il est. Et là, je le disais auparavant, on a eu l'occasion de faire des projections en Martinique, on m'a dit « merci de nous avoir fait connaître un peu Fanon, notamment pour les plus jeunes ». Et certains, j'ai eu même un professeur de lycée qui travaillait au lycée Frantz Fanon, qui me disait à la fin de la projection, je pensais savoir qui était Fanon, je ne savais pas. Et en fait, je pense qu'il y a une volonté, et notamment d'essayer d'évacuer le contenu de sa pensée, ses analyses, ses craintes, ses prémonitions, les mises en garde qu'il a fait, qu'on retrouve aujourd'hui, la question de la bourgeoisie nationale, on est en plein dedans aujourd'hui, l'échec de cette bourgeoisie nationale aujourd'hui qui flotte par rapport à la population, cette petite bourgeoisie francophone, francophile, algéro-algéroise, et qui ne voit pas le reste du pays et qui parfois est aussi beaucoup dans un mépris de classe vis-à-vis du reste de la population, qui a joué un grand rôle d'ailleurs à soutenir ce régime pendant des années. Et on peut dire que même la question de l'islamisme a été aussi énormément instrumentalisée. Et là, il y a eu une espèce d'aliénation qui a joué un rôle important dans le renforcement de l'idée qu'il y aurait juste une binarité entre un pouvoir laïque républicain versus barbare islamiste. Et ce qu'on a eu pendant 30 ans et ce qui a permis à un régime de vider les caisses du pays en utilisant aussi cette stratégie-là.
Il a été déçu sur certains points, sur les positions africaines, par exemple de la Côte d'Ivoire et autres.
Lorsqu'un colonisé comme M. Houphouët-Boigny, oublieux du racisme des colons, de la misère de son peuple, de l'exploitation éhontée de son pays, en arrive à ne pas participer à la pulsation libératrice qui soulève les peuples opprimés, et que, en son nom, tout pouvoir sont donnés aux bijards et autres massus, nous ne devons pas hésiter à affirmer qu'il s'agit ici de trahison, de complicité et d'incitation au meurtre. Frantz Fanon, pour la Révolution africaine.
Vous montrez dans votre film, hein, Hassan Mézine, que Frantz Fanon, justement, donc vous parliez de prémonition, et il jugeait sévèrement en fait les indépendances africaines qui n'avaient pas été obtenues par la lutte, mais en quelque sorte octroyées, données par l'ancien colonisateur. Il faisait le lien avec la conscientisation des peuples, comme s'il n'y avait pas eu un travail, en fait. C'est presque justement le psychiatre qui parle, en fait. Le travail n'avait pas été fait presque par le patient peuple, c'est cela ?
Oui, alors je pense qu'au moment où il dit cela, c'est une période où il voit déjà des pays nouvellement indépendants. Donc il y a déjà le cas de la Tunisie, du Maroc, il y a le cas des pays d'Afrique de l'Ouest qui sont déjà indépendants. Et en fait, tout simplement, je pense qu'il voit se mettre en place la France-Afrique, le système de la France-Afrique et d'intermédiaire du colonialisme que lui appelait à un moment les larbins de l'impérialisme, qui sont devenus les courroies de transmission d'un nouveau colonialisme qui se mettait en place dans un pays où en effet les indépendances ont été attribuées, ont été données. Il n'y a pas eu de conscience, il n'y a pas eu de lutte nationale, donc il n'y a pas eu de rupture, pas de rupture, j'irais, de rupture mentale avec le colonialisme. C'est vrai qu'en Algérie, il y a eu cette particularité-là, parce que la guerre d'indépendance a amené quelque part une certaine rupture vis-à-vis du système colonial, et qui a été un moteur même pour la suite, pour essayer de consolider la construction d'un État souverain, en fait. Alors que dans d'autres pays, on a très vite vu se mettre en place un système de néocolonialisme.
L'Algérie, elle, c'est le contre-exemple. Hein. Mmh. C'était presque même le bon exemple, hein, pour Fanon, qui aurait dû essaimer ailleurs en Afrique. Et néanmoins, on se retrouve 50 ans plus tard. Il y a des habitudes qui ont repris l'endroit.
Alors moi, je pense qu'il y a, un tournant qui est notamment la fin des années 80. Je pense que c'est un grand tournant dans l'histoire contemporaine de l'Algérie, qui est notamment, il faut lier ça aussi à l'effondrement du bloc Est, et l'arrivée, justement, l'entrée dans la mondialisation, qui fait que forcément en face on a des contre-pouvoirs qui sont présents, on a une contre-révolution qui agit aussi de la part de l'étranger, et non pas pour parler de la main d'étranger comme c'est souvent utilisé, mais de dire qu'il y a une réalité de rapport. L'impérialisme, on le sait bien, n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Et l'Algérie s'est retrouvée dans une phase où on sait bien qu'il y a eu cette révolte du 5 octobre 88 qui montre déjà un échec. Quelque part, on a 10 ans après, je dirais, la mort du président Boumédienne, on se retrouve dans un système de corruption qui s'accélère de manière dramatique et qui va amener justement à cette révolte de la jeunesse, et qui va demander quelque part un bilan par rapport à où en est la révolution. Et il va y avoir un changement qui va arriver avec des réformateurs qui vont arriver, qui vont faire tout un travail de réforme, qui vont essayer d'aller dans un sens, je dirais, progressiste pour le pays, avec l'ouverture à la presse, le multipartisme, essayer d'ouvrir le pays dans une espèce de modernité qui serait en correspondance avec l'esprit de la révolution et la charte de 54, je dirais, qui est le départ de la révolution algérienne. Et ce qui va se passer, c'est que cet effondrement du mur de Berlin va faire qu'il y a toute une clique au pouvoir qui va vouloir partager et croquer au gâteau de la mondialisation et de la rente pétrolière. Après ça, les événements par la suite sont allés très vite. Après, je sais pas, peut-être que d'autres ont d'autres avis là-dessus, mais...
Je sais pas si Nadir ou Malek avaient une lecture différente.
Une lecture différente, je ne sais pas, peut-être, mais Moi, je suis pas une autorité. Hein. Moi, je suis juste un cinéaste et j'essaye de faire
vous
des films.
Vous avez vécu ces événements.
J'ai vécu la période de Boumediene. En effet, la période. Moi, j'en ai souffert.
Vous étiez jeune.
J'en ai souffert puisque on était systématiquement. Il y avait rien à manger puisqu'il fallait faire la queue pour aller acheter du lait, pour aller. Donc moi, en tant qu'enfant, j'ai vécu cette période-là comme une période difficile, douloureuse. Avec, il faut dire aussi, tout un esprit où il fallait faire attention, ne rien dire. Donc il y avait cette chape de plomb. Et puis, il faut dire que moi, j'ai perdu mon père en France. Il était peintre en bâtiment. Il est mort d'un accident du travail. Donc j'étais dans cette situation où on est rentré à Alger parce que les conditions étaient un peu plus faciles, un peu plus agréables pour une maman qui se retrouve avec deux gosses. Et donc, on a vécu un peu dans cette atmosphère où on essaye de s'en sortir. Et puis, j'avoue que moi, à partir de 15-16 ans, je voulais partir. Et donc, j'ai eu cette possibilité de partir, de venir en France. Et puis, j'ai repris un peu le même système qu'auparavant mon père. C'est-à-dire, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôtel, dans le même hôtel où était mon père à Malakoff. Et c'est à partir de là que j'ai essayé de commencer à passer le bac, à faire des études, et puis après, l'idée donc du cinéma. Alors voilà, donc ma position, c'est juste une position d'un type qui est issu de l'immigration en France, et en même temps qui est issu de cette période difficile de Boumediene. Et évidemment, je voyais en face de moi ce qu'on appelle maintenant la kleptocratie. Je voyais très bien comment ça fonctionnait. J'étais dans une école, je voyais très bien comment les gens s'enrichissaient, je voyais tout ça. Voilà, donc après la révolution, après les émeutes de 88, j'étais pas là, mais ça a été une période terrible. Et en même temps, j'ai pris conscience parce que on a tiré sur les... Pour nous, c'était quand même sacré. La population était sacrée, puisqu'on parle du peuple, et qu'on tire sur le peuple. Donc, tout ça forme un chamboulement. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Et par la suite, on connaît l'histoire. On sait ce qui s'est passé. Et puis il y avait aussi la période de... Parce que l'islamisme, ça a commencé très tôt. Hein. C'est pas...
Fin des années 80 ?
Mais bien avant, dans les années 70. Lorsque vous allez à l'école, vous avez quand même un programme scolaire avec un programme qui n'était pas officiel, mais qui existait. Ça s'appelait l'éducation religieuse. Donc tout ça est
une préparation
de se former et puis d'avoir peur, surtout d'avoir peur de Dieu, d'avoir peur de l'autorité, d'avoir peur du gouvernement, de l'État, de l'armée. C'est comme ça que j'ai grandi.
C'est-à-dire que effectivement, il y a deux choses essentielles que moi aussi j'ai vécues.
Malek Bensmaïl.
Un peu plus tard que Nadir, etc. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, deux valeurs qui sont très importantes et qui, en complètement, je reviens un peu à ma grande thèse, c'est-à-dire que il y a deux mythes. On a complètement figé toute la population avec deux mythes et sur lesquels, effectivement, la pensée a été totalement laminée autour de ces deux mythes. C'est-à-dire le mythe, effectivement, de la guerre de la libération et puis tout ce qui tourne autour de l'espace religieux. Ce qui fait qu'il y a eu deux socles comme ça. Pour l'instant, ces deux socles sont en train d'être totalement torpillés. Le premier a commencé à s'effondrer avec donc l'islamisme radical, avec la décennie sanglante, etc. Mais ce pilier-là autour de l'idéologie est important parce que nous n'avons vécu, nous, Algériens, tous... que sous le regard des martyrs, c'est-à-dire que sous ce mythe des martyrs, et que donc l'Algérien n'est toujours pas un vivant. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'aujourd'hui, avec cette révolution profonde, il y a une tentative en 88, mais la réalité, c'est qu'effectivement, on a enseveli le corps algérien. Le corpus algérien était totalement laminé, d'abord, effectivement, sous la colonisation, on a beaucoup, beaucoup parlé. La guerre de libération est une violence aussi physique, puisqu'on a massacré quand même des villages entiers. Et on a quand même eu aussi des guerres fratricides pour rappeler la question des harkis, etc. Donc il y a eu le corps algérien a été totalement détruit, enseveli. Et puis pendant la période de Boumediene et pendant toute cette période très, très autoritaire, nous avons vécu, nous, à travers l'école, à travers tout ce qui se disait à la radio algérienne, à la télévision algérienne, avec la diffusion du film La bataille d'Alger deux fois par an, etc., le mythe du révolutionnaire et du martyr, surtout. Et donc toute réflexion au-delà de ce mythe et du Coran, n'avait presque pas lieu d'être, aussi peu intellectuellement parlant. Donc l'espace intellectuel, donc il y a eu comme ça des tentatives, grâce à certains intellectuels, des romanciers, etc., certains cinéastes, qui ont fait un peu bouger les lignes. Et ça, c'est important, parce que c'est ça aussi qui fait que nous enregistrons la mémoire, et c'est ça aussi qui m'a orienté, moi, en tant que cinéaste, plutôt que d'aller vers la fiction, d'aller plus vers le documentaire, parce que j'avais envie, d'abord, d'enregistrer ce réel-là. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la population est complètement figée, etc., et que maintenant elle commence à bouger, voilà. Mais ça, il fallait effectivement rentrer dans les institutions, aller dans un hôpital psychiatrique, aller filmer une école, etc., filmer les arcanes du pouvoir que j'ai fait pour la décennie sanglante, etc. Et ça, c'était important parce que tant qu'on ne crée pas, si vous voulez, ce réel-là, même pour l'imaginaire de la fiction, c'est complexe parce qu'on a besoin d'avoir aussi d'enregistrer notre propre archive. Vous savez que pour l'instant, un documentariste qui cherche des archives, il ne les trouve pas en Algérie. Nous n'avons pas d'archives, alors qu'il y a une banque de données d'archives qui est fermée, mais dont on ne peut pas accéder. Donc, vous vous rendez compte à quel point nous sommes aussi encore dépendants de la quête d'archives au niveau international.
C'est infantilisé.
C'est complètement. C'est-à-dire que du coup, nous n'avons pas de passé. Ou alors ce passé, il reste encore une fois que encadré dans un musée ou que voilà. Et ça, c'est terrible parce que et l'Algérien aujourd'hui qui se révolte au niveau de la rue, c'est effectivement d'abord pour le pain et une meilleure vie. Ça, c'est évident. Mais aussi parce qu'il veut se défaire, je pense, il veut revivre. Ce corps qui a été enseveli aujourd'hui veut vivre, veut danser, veut chanter et veut prendre et veut se réaccaparer l'espace urbain et même la zone rurale. Et ça, ça veut dire une chose très importante. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus profond que simplement un rejet d'un régime.
Une pause musicale dans tous les cinémas du monde, justement, vous parliez du peuple qui veut chanter, qui veut danser. Un titre tiré du générique de fin de Frantz Fanon hier aujourd'hui, donc votre documentaire Hassan Mezine, c'est le titre War de Naïssatou.
أخيرا ينبذ وأبدا يحشر أخيرا ينبذ وأبدا يحشر في كل مكان حر طول الحر وإلى أن لا نرى مواطنا أول وآخر ثاني في أي أمة وإلى أن يصبح لون أي كان لا يزيد أهمية عن لون العيون أقول الحرب إن حتى حقوق الإنسان الأساسية تكفل بالتساوي للجميع بغض النظر عن العرض أقول الحرب إلى أن نرى ذاك اليوم حلم السلام الدائم إنسان ابن العالم وسيادة الأخلاق الدولية سيظل وهما خاطفا ينشد أبدا يدرك الحرب أقول الحرب وحتى نرى الأنظمة الخسيسة المستبدة بإخواننا في زيمبابوي في فلسطين في العراق لا إنسانية العبودية وقد أتيح بها ودمرت كليا في كل مكان حر
Vous êtes bien sûr RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde pour une émission spéciale consacrée à l'Algérie. Nous sommes toujours en compagnie de Hassan Mezine, Nadir Moknesh et Malek Bensmaïl pour parler du printemps algérien. Et nous sommes en ligne aussi avec une jeune réalisatrice à Alger, Sofia Djama, bonjour.
Bonjour.
Je dis printemps algérien par commodité, mais est-ce que c'est une expression que vous reprendriez les uns et les autres? Est-ce qu'on peut parler de printemps algérien? Sophia, Djama, est-ce que vous parleriez de printemps algérien, vous?
Oui, évidemment, tout de suite, quand on dit printemps algérien, ça, c'est délicat, c'est complexe. Les gens vont le percevoir très vite comme une association à laquelle ils ne veulent pas adhérer. Et c'est compréhensible. Ça va, ce débat.
Alors, Malek Ben Smaïl, vous disiez tout à l'heure que vous aviez fait des documentaires surtout pour essayer de comprendre ce qui se passait, ce qui se jouait dans la société. Alors, est-ce que les uns et les autres, vous êtes justement tenté d'aller filmer ce qui se passe dans la rue en Algérie, Malek Ben Smaïl?
Pour ma part, moi non.
Sophia. Vous non, Malek Ben
Smaïl? Non plus, c'est-à-dire que moi, je pense que... Pour l'espace cinématographique, etc., c'est l'avant, l'après, c'est-à-dire que l'actualité, je m'en méfie beaucoup et j'attends de voir les choses, comment elles se dessinent. Je pense qu'il faut prendre un peu une analyse. Maintenant, je trouve aussi, un peu comme une psychiatrie d'urgence, il faut aussi tourner des choses. Alors, je dis pas aux cinéastes de tourner, je dis simplement, ça serait bien, je pense, qu'une certaine jeunesse s'accapare un peu de ces images-là, parce qu'on a besoin aussi de constituer, ce que je disais tout à l'heure, notre mémoire et notre archive contemporaine.
Alors moi, je pense qu'il y a un travail formidable qui a été fait par une jeune réalisatrice qui s'appelle Drifa Mesner, qui est basée à Alger, et qui depuis le 22 février, a suivi quasiment à couvert toutes les manifestations, et elle a fait un travail formidable, très intelligent. On sent qu'elle est très proche du peuple, qu'elle en fait partie. Elle est vraiment à l'intérieur des manifs, c'est pas un regard extérieur qui flotte. Elle filme des familles à l'intérieur des maisons, pendant les petits moments de pause, pendant les manifs, à l'extérieur, au cœur des manifs, et vraiment c'est un travail formidable qu'on retrouve sur YouTube. Donc Drifa Mesner, vraiment je vous recommande de regarder.
C'est très intéressant parce qu'elle, au-delà de filmer, etc., c'est-à-dire qu'elle a créé une petite chaîne YouTube, et c'est-à-dire que c'est une diffusion régulière, etc., c'est-à-dire qu'elle remplit ce que devrait faire, par exemple, la télévision algérienne, etc.,
exactement,
ou un certain nombre de télés privées, donc avec plus d'intelligence, beaucoup plus d'émotion, et elle a eu quand même... Donc c'est vraiment une caméra citoyenne, c'est ce
exactement
que je disais un peu tout à l'heure, il y a peut-être besoin de cette caméra citoyenne.
Mm-hmm. Ouais. Nadir?
Oui, il y a beaucoup moi je suis, c'est comme ça que je suis l'information et je suis ce qui se passe. C'est justement avec ces images-là. Et il y a beaucoup d'émotions, il y a des choses extrêmement belles et je suis content, heureux de redécouvrir, de voir des visages souriants, surtout souriants, parce que on avait souvent tendance à voir les rues sombres, les rues ternes, et puis tout à coup on voit des têtes de la jeunesse, des gens souriants, des gens qui dansent dans la rue, des gens qui sont bien habillés, en tout cas qui essayent de l'être. Mais quant à filmer, moi j'aime bien la fiction et je crois que je vais rester à la fiction. Et je pense que après, comme a dit Malek, après cette période-là, qui est une période un peu flottante, parce que vous savez très bien comment ça se passe les révolutions, hein, c'est ce qu'on
disait
tout à
l'heure. Moi, j'ai toujours l'espoir que ça se termine.
Moi aussi, j'ai de l'espoir, mais vous savez, nous autres humains, nous sommes, à un moment donné, il y en a qui veulent des places,
il y en
a qui veulent.
Absolument, oui.
Mais en même temps, ce qui est bien, c'est de voir ces images de la rue. Et vous savez, vous avez vu que tout le monde dans la rue a un téléphone portable, tout est filmé. J'ai même vu des gens qui ont été embarqués par la police. Ils se sont filmés. Donc ce sont les images d'aujourd'hui qui nous sont transmises via Internet.
Sophia, Djama, Malek Ben Smaïl et Nadir Moknesh aussi, évidemment Hassan Mezine, il y a un épisode peut-être passé inaperçu, mais qui avec le recul semble signifiant, comme peut-être le fut l'affaire Langlois à la Cinémathèque de Paris 3 mois avant mai 68, eh bien, c'est une mobilisation de cinéastes à l'automne dernier contre la censure, puis en décembre dernier, donc il y a pas si longtemps, contre la nomination de Salim Agar à la tête de la Cinémathèque algérienne. On a vu vos noms à tous, hein, Nadia Moknesh.
Oui, moi, j'ai pas signé, donc vous
non,
vous
mais il me semblait avoir vu que si, quand même, en faisant une recherche. Alors, vous étiez associé, malgré vous, mais...
Sûrement, parce que j'ai été moi-même censuré. Donc,
mais voilà, parce que...
je sais de quoi je parle.
Délice Paloma en 2007.
Délice Paloma n'a pas eu de visa d'expulsion en 2007, et personne n'a bougé à l'époque. Le film a été censuré, a été interdit de sortie, et s'est passé sous silence. On n'en a pas parlé, personne n'a rien dit, personne n'a écrit aucun article.
Donc résignation, mais là peut-être que plus personne ne se résigne.
Là, plus personne ne se résigne. Donc ce mouvement de la Cinémathèque était un mouvement salutaire, évidemment. Oui. Surtout que cette personne que je connais vaguement, alors après je ne sais pas, est-ce que c'est bien cette personne-là qui écrit aussi des articles sous un pseudonyme et que ce sont des articles insultants, c'est peut-être la même personne. Je ne sais pas.
Malek, c'est la même personne. C'est-à-dire que Bon, après, c'est une personne parmi tant d'autres, c'est-à-dire qu'on a un problème majeur auprès de cette question autour du ministère de la Culture et du rapport au cinéma. Il y a vraiment ce qu'on appelle le vide qui est là, et qu'effectivement, il y a certaines personnes totalement incompétentes qui se proposent. Salim Agar s'est proposé à ce moment-là, probablement, qu'il y avait une chaise vide et qu'on s'est dit, bon, pourquoi pas lui ? Sauf que c'est peut-être vraiment pas la bonne personne, puisqu'il s'est attaqué à énormément de cinéastes.
Dont à vous, je crois. Hein.
Moi, personnellement, à Sofia Djamma aussi, à un certain nombre de cinéastes, vraiment toute la jeune génération, etc., et de manière très, très virulente. Comment quelqu'un comme ça peut aujourd'hui diriger une cinémathèque qui est censée, effectivement, être le patrimoine du cinéma algérien et du futur. Donc, ça a posé un problème majeur. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une personne qui est issue du ministère et qui est un bureaucrate et qui assure une censure en termes de bureaucrate. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une pensée, encore une fois, liée à une idéologie, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, et qui applique cette idéologie, c'est-à-dire qui vraiment est une arme vraiment auprès du ministère. Donc maintenant qu'il y a tous ces mouvements-là, maintenant qu'il y a énormément de choses, etc., c'est des gens qui sont en train de changer totalement de veste, effectivement, ils commencent à se réapproprier le discours un peu de la rue, ils commencent à se réapproprier le discours des jeunes cinéastes, etc. Donc il y a quelque chose, en tout cas, qui est en train de bouger, et les choses sont en train de se transformer petit à petit, oui.
Sofia Djamma, vous qui êtes à Alger, justement, où est-ce qu'on en est ? Salim Agar est toujours directeur de la Cinémathèque algérienne.
Pour revenir sur la question de la nomination de Salim Agar, ça renseigne exactement ce que est devenu la Cinémathèque, dans quel état la Cinémathèque est, dans quel état l'absence de politique culturelle est à l'égard du cinéma et la volonté de destruction. En fait, pour moi, c'était une volonté de destruction, clairement. Et aujourd'hui, j'ai eu le sentiment qu'il n'y a plus de revendications le concernant, mais j'aime à croire que en fait, la suite des événements va faire qu'il va disparaître avec tous les Salim Agar du cinéma, de la culture et de la culture en général. Mais ce qui m'a un peu désolée, en fait, par rapport à ce qui s'était passé en mois de décembre, où il y a eu cette... En fait, ce qui nous avait réunis, clairement, c'était les cinéastes... malgré parfois, comment on appelle
nos différences,
ça a été justement la nomination de Salim Agar. Quelques semaines plus tard, je voyais au fil des réunions que ce n'était pas vraiment d'actualité, parce qu'entre-temps, il y a eu le décès d'un producteur de télévision, et on s'est perdu un peu dans ça. Et en fait, certains étaient mal à l'aise avec l'idée justement de revendiquer le départ de Salim Agar, et je ne comprenais pas, en fait, parce que c'est, pour moi, c'était, il incarnait vraiment ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire au-delà de l'incompétence, l'idéologie dans laquelle on a voulu nous installer pendant des années. Et ne plus revendiquer son départ, quelque part, pour moi, à l'époque, c'était justement ne plus revendiquer ou en tout cas de négocier avec quelque chose dont on ne veut plus.
Malek Bensmaïl.
Oui, c'est-à-dire que Sofia a raison, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il faut rappeler, c'est quand même quelqu'un qui était membre de la commission et membre influent. Ils n'étaient que trois membres de la commission de censure. Donc c'est quelqu'un qui a censuré énormément de films.
Et dont Odélis Palomas, sans doute.
Peut-être qu'il était à l'époque dans cette commission.
Non, il y avait Khalid Atoumi, voilà, qui était ministre à l'époque.
Mais qui était un des conseillers, etc. Donc c'est quelqu'un qui remontait dès qu'il savait qu'il y avait un film qui, pour lui, était un film dit un peu moderne, qui revoyait un peu, etc., etc. Il remontait les informations pour essayer tout de suite, effectivement, de le censurer. Okay. Donc, il y a eu un dernier film aussi qui est très beau, de Behia Benchir Lefgoun, sur les chômeurs, etc., Fragment de rêve, qui a été censuré, et c'est lui qui l'a censuré. Et maintenant, effectivement, il fait marche arrière, et il le présente à la Cinémathèque, aujourd'hui, avec les mouvements populaires. Donc, vous voyez, dans quel contexte on est, ça, c'est dangereux, parce qu'on est dans un jeu extrêmement malsain, vraiment.
Hassan Mézine.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la pétition, je ne l'ai pas signée parce que je l'ai reçue, mais bon, moi, je l'ai vue comme une attaque vers une personne. Alors, c'est vrai que je ne connais pas tout le contexte des choses.
Sofia ?
Excusez-moi, je comprends, mais c'était tout le souci, et le souci est là, il est structurel, parce que justement, ça a été le débat que nous avions eu avec les Maker Arad. C'était, moi, j'étais pour justement nommer clairement le ministère. Mais des personnes étaient mal à l'aise, c'était compliqué.
Oui, mais il faut avoir du courage quand on lance dans...
était Salim Agar.
Je voudrais juste terminer mon propos et de dire qu'en fait, moi, ce qui se passe, c'est que Salim Agar m'a invité à passer mon film à la Cinémathèque et je n'ai pas refusé parce que juste avant, mon film a été censuré, sans le dire, par Monsieur Ahmed Bedjaoui pour le Festival International du Cinéma Engagé d'Alger, où on m'a dit que mon film était sélectionné. D'ailleurs, même Monsieur Agar faisait partie de la commission et ils ont accepté mon film. Le jour où la liste est arrivée, le film n'est pas sorti. Donc, tout le monde donne des noms. C'est pour ça que je dis qu'il y a une machine derrière. Moi, je pense qu'il faut voir plus haut. C'est structurel. C'est pas une attaque sur des personnes, des petits fonctionnaires comme Agar, il y en a plein en Algérie. C'est des gens qui ont des postes qui sont même pas des seconds couteaux dans leur poste. Après, les règlements de compte locaux, moi j'en fais pas partie. Moi j'ai eu la chance de présenter mon film à la Cinémathèque algérienne et je préfère passer à la Cinémathèque algérienne. C'était en février dernier plutôt que de travailler avec l'Institut français à Alger.
Donc là, on en vient à la question des financements.
Et c'est pour ça qu'il faut voir les choses de manière structurelle et politique.
Sophia Djamal.
Excusez-moi.
Oui, bien sûr.
Les écrans sont les écrans, c'est-à-dire que l'Institut français est un public. Moi, je suis très contente d'avoir projeté mon film dans le réseau de la Cinémathèque algérienne, à savoir, et je vais continuer à le refaire, je vais reprendre la tournée, parce que je considère que la Cinémathèque n'appartient pas à Salim Agar.
Exactement.
Et j'ai pu projeter mon film à Oran, à Abjaïa et à Alger par le biais de la Cinémathèque, puisque les festivals, j'y ai pas eu le droit, et j'étais contente aussi de pouvoir le projeter via l'Institut. Et j'ai aucun scrupule à le dire parce que je considère qu'il faut prendre tous les écrans qui nous sont offerts. Au bout du compte, c'est le public. C'est la rencontre avec le public qu'il faut évaluer. Il y a un public qui va à l'Institut français, il y a un public qui va à la Cinémathèque, il y a un public qui va à Ibn Zeydoun, et il y a un public qui va aller dans des petites salles où on projette le film sur un vidéo, via vidéo proche. En fait, l'intérêt, c'est que le film
soit vu.
Le combat est là.
Mais je suis d'accord.
Sophia, oui, bien sûr, mais l'intérêt, effectivement, c'est le financement, peut-être.
Je peux me permettre,
Nadia Maknesh.
Pour rebondir à cette discussion, je pense qu'on est suffisamment adulte pour savoir ce qu'on est en train de faire. Si ce film sert les intérêts de la France ou si ce film sert les intérêts de l'Algérie. Je pense qu'on est assez adulte quand on fait un film de savoir ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de réaliser. Je sais que la question du financement peut se poser, la question de l'Institut français peut se poser, mais je crois que c'est le rôle du réalisateur ou de la réalisatrice d'avoir son point de vue. Maintenant, ce point de vue peut ne pas être partagé. Moi, j'ai fait des films en français, ils ont été taxés de laïco, de je ne sais plus quoi. Et puis, c'est un point de vue, et c'est à l'artiste de le défendre. Après, ça peut être à la Cinémathèque, ça peut être à l'Institut français, ça peut être à l'Institut de Bamako ou de je ne sais quel institut. Ouais. Mais à partir du moment où nous sommes responsables et adultes, voilà, c'est à lui de décider.
Oui, mais c'est au réalisateur de décider.
Bien sûr.
Et c'est surtout, moi, je pense que je suis pas d'accord avec vous, mais
donc Malek avec Hassan Mezine.
Oui, c'est-à-dire, c'est justement, c'est ce type d'idéologie, c'est-à-dire ce type de réflexion qu'ont un certain nombre de fonctionnaires à Alger en disant l'institut contre la Cinémathèque, pourquoi ils projettent là, pourquoi ils le projettent pas là, etc. Sauf que nous avons en face nous qui effectivement sommes en perpétuel lien de production avec l'Algérie, avec des institutions qui financent pas toujours, qui nous mettent des bâtons dans les roues. Donc il y a un moment, effectivement, quand je vois des jeunes cinéastes dont l'Institut français peut aider au financement ou à la post-production d'un film, je suis désolé que ce soit l'Institut français ou Goethe Institute, il y a un moment où c'est le cinéma qui, c'est le cinéma qui prime. Et l'Institut français finance et aide les rencontres de Bjaïa où vous avez présenté votre film.
Oui, tout à fait.
Et à Salim Agar, avant qu'il ne soit nommé à la directrice, monte un papier et descend totalement les rencontres de Bjaïa en disant « Honte à ce festival qui est financé par la France ». Or, il n'est financé qu'à 4-5%. Mais il descend justement pour ces 5%, etc. Donc, on rentre dans quoi ? Dans quelque chose qui est extrêmement dangereux, c'est-à-dire où on repart sur la relation historique avec la France et cette guerre. On essaie de la porter
sur un
terrain
actuel, en fait.
Une instrumentalisation qui est très, très dangereuse parce que la réalité sur le terrain, c'est que nous avons souvent des institutions qui ont une lenteur administrative effarante, dont les finances ne sont pas tout à fait à la hauteur pour des films de cinéma ou de documentaire, qui fait que beaucoup d'Algériens se retournent, jeunes, je parle des créateurs, vers les instituts qui, parfois, financent un peu de post-production, un peu de tournage, etc. Et les formes aussi, il y a une possibilité aussi d'avoir une formation en documentaire. Alors, je dis, moi, tant qu'il y a des choses qui se font, tant mieux, parce que c'est la population, c'est la jeunesse qui prend à bras le corps et qui mord et qui a envie d'avancer un petit peu dans cette...
Alors, je pense qu'on s'est pas très bien compris. Moi, mon propos, c'est de dire que, justement, aujourd'hui, la responsabilité du ministère de la Culture en Algérie est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est en train de pousser une jeunesse en les privant de moyens, qu'ils soient techniques ou de formation, pour pouvoir réaliser de la musique, des films, en fait, d'œuvres d'art dans différents domaines, en les jetant dans les bras des instituts étrangers. Et ça, c'est également une stratégie pour, justement, de maintenir, au travers de la francophonie, toutes ces choses-là. Et encore en Algérie, c'est moindre. On prend le cas de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. On a des cas de pays où les ministères de la Culture n'existent quasiment plus, sont remplacés par les instituts français ou les instituts cervantes, qui jouent un rôle stratégique. Et c'est ce que j'explique à un niveau... Je veux dire, je suis pas en train de dire que moi je reproche pas à la jeunesse qui se jette dans les bras, parce que quand on est dans un pays où on n'a pas de moyens, on a envie de faire de la musique ou un film, on trouve tous les moyens qui nous sont donnés. Ça, je le comprends parfaitement. Et donc en fait aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, moi je pense que ce que disait justement la demoiselle en ligne,
Sophia
Djama, la Cinémathèque appartient à tout le monde. Et c'est vrai que quand on peut l'apprendre, il faut l'apprendre, il faut pas s'en priver, parce que elle n'appartient ni à Salim Agar, ni à personne, elle appartient à toute personne qui veut passer un film.
À propos de la jeunesse, justement, Malek Bensmaïl, vous aviez lancé un appel, je crois, c'était à Béjaïa, non? Pour encourager les nouveaux cinéastes, enfin, les jeunes cinéastes à s'emparer des sujets qui dérangent. Est-ce que là, on va y aller, parce que cet appel, il a été lancé avant le 22 février. Mmh. Est-ce que cet appel d'air, on va dire, même si on ne sait pas où cela va mener le peuple algérien, mais est-ce qu'au moins on peut espérer que les cinéastes, enfin, s'attaquent au sujet qui dérange ?
Il y a déjà effectivement des films qui effectivement s'attaquent à un certain nombre de sujets, Nadir a pas mal ouvert aussi la voie en fiction. Souvent, on a comme ça des sortes d'amnésie, etc. Mais c'est vrai que, concernant la jeunesse, il y a peut-être... c'était pas un appel, d'ailleurs. C'était lors d'un entretien qui a été très mal retranscrit, qui a eu un mélange entre ce que j'ai dit sur le cinéma historique, parce que il y avait toute la question de la censure autour du film L'Arbi Ben Mehdi de Bachir Deraïs, et je crois qu'elle a fait totalement un mélange entre ce que je disais, etc. Donc la retranscription, malheureusement, j'ai demandé à voir l'entretien avant, et qui n'a pas été donné. Et donc, du coup, ça crée une sorte de polémique. Il n'y a pas de polémique, c'est-à-dire que je dis que tous les cinémas sont intéressants. Après, peut-être que, à nous, de faire bouger un peu les lignes pour que, justement, il y ait des sujets beaucoup plus francs. C'est-à-dire que peut-être on contourne énormément un certain nombre de sujets. Je pense par exemple à la question de l'homosexualité, je pense à des questions sociétales, à la question politique. Je trouve que politiquement, nous, cinématographiquement, on n'affronte pas les choses telles que certains cinémas. Je pense à un cinéma russe, je pense à certains, voilà, qu'il y a une sorte, un courage plus fort, effectivement, que je vois. Alors, je dis pas qu'il faut faire ça, je dis simplement, ça, c'est un cinéma qui, moi, m'intéresse à titre personnel, et que peut-être, il y a peut-être une jeunesse aujourd'hui qui va, avec les mouvements populaires,
libérée,
avec
peut-être
ces révolutions profondes, qui va totalement déployer, parce que peut-être que nous tous, nous étions un peu inhibés, et que peut-être, maintenant, on arrive à un stade où il va y avoir, comme ça, des sujets beaucoup plus ouverts.
Enfin, totalement inhibés, voilà. Totalement.
Mais c'est vrai que Nadir, avec Viva l'Algérie, voilà. 2004, c'était quand même des beaux portraits de femmes complètement subversifs à l'époque en Algérie.
Et filmés dans les rues d'Alger en plein hiver. C'était juste après la décennie noire. Et c'est vrai que... Mais moi, je suis parti du principe... En tout cas, de l'idée de parler de l'individu, de parler de cette femme, de ces femmes, et de parler de cette individualité, et de la montrer, et de parler de l'humanité. Et donc ça a été mal interprété pour certains, parce qu'ils ont dit pourquoi on choisit particulièrement une ancienne danseuse de cabaret et cette fille qui a une sexualité totalement débridée. Ben justement, pourquoi on parlerait pas de ces gens-là? Parce que le cinéma, c'est quoi? C'est pas pour parler simplement d'une famille tranquille, bourgeoise, avec un déjeuner, dîner le soir et puis voir papa et maman. C'est de parler aussi un peu les franges de la société. Et je pense que ça a fait du bien, ça a fait du bien. Ouais.
Sophia Djama, justement, quand vous
entendez... Mais ça a fait des enfants, comme Sophia.
Ça a fait des enfants, oui. Donc, Sophia Djama, vous, votre premier long-métrage, Les Bienheureux, est-ce que vous êtes en préparation d'un autre long-métrage? Est-ce que vous avez le sentiment que, bah voilà, vos contemporains, cette nouvelle génération de cinéastes, justement, est prête à s'emparer de, comme le disait Malek, voilà, des sujets, soit des sujets politiques, soit des sujets, voilà, de la réalité d'aujourd'hui?
Non, je pense qu'on s'en est emparé déjà, d'une part, et d'autre part, ce qui aide bien, c'est que la plupart des réalisateurs qui ont fait des films entre ces 5 dernières années entament leur prochain film. Je sais que Karim est sur son prochain,
Karim
je
Moussa,
suis
oui.
sur mon prochain. On n'est pas les réalisateurs d'un premier et dernier film. Et concernant les choix des thématiques, on a fait les choix des thématiques qui nous concernaient. Aujourd'hui, quand je fais juste la rétrospective de ces 3 dernières années ou 4 dernières années, ou même 5 ans, on a tous abordé, avec des points de vue différents, ce dont quoi on a grandi, c'est-à-dire... Je veux dire par là, moi j'ai grandi pendant la guerre civile, j'ai vécu pendant la guerre civile, j'ai eu toute ma jeunesse qui a été entre la guerre civile et l'après-guerre civile. Je ne pouvais raconter que ça. Mmh. En tout cas, du moins pour le premier film. Le prochain film n'a rien à voir et c'est pas grave et j'en suis contente. Et si je devais revenir sur une thématique, j'en serais tout aussi contente. Voilà, j'ai pas trop d'arguments à part celui-ci.
Une dernière question avant de se quitter, Sophia Djama. Donc vous êtes dans, je le disais, hein, vous me l'aviez confié lorsqu'on préparait cette émission, vous êtes dans la rue, mais comment vous voyez un peu la suite? Vous êtes plutôt optimiste ou plutôt inquiète? Je crois que vous me disiez qu'il n'y avait pas trop de revendications justement concernant la culture, le ministère de la culture, et que ça restait assez général, on va dire le plus petit, mais qui est un grand dénominateur commun, c'est-à-dire la demande de liberté, mais que ça ne va pas vraiment au-delà dans les slogans dans la rue.
Bah, comme toutes les révolutions, les choses avancent doucement et parfois subitement, il y a des choses qui apparaissent. Bah, plus tard qu'avant-hier, sur le débat de la transition, les syndicats se sont réunis et le collectif des réalisateurs se présente et commence à revendiquer. Et ça a été entendu. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est la peur des gens d'être dans une séparation, en fait, à partir du moment où on a des revendications qui sont autres que celles du Itnahauga, c'est-à-dire ils dégagent tous. La démocratie, elle passe par des vecteurs différents, à savoir la culture, les conditions de travail, parce que à la veille du 1er mai, y a des revendications qui sont liées aussi, justement, nous, en tant que cinéastes, les conditions de travail qui n'existent pas, qui ne protègent aucunement les réalisateurs, les auteurs, les techniciens. Bah, voilà, chacun dans son secteur et sa corporation va devoir s'exprimer. La question des féministes, ça a été incroyable il y a quelques semaines, c'était hystérique. Il y avait c'est pas le moment, pour moi, ça a été insupportable. C'est le moment, justement, de toutes les revendications, qui sont justement des revendications constructives d'une démocratie et donc d'un projet de société autour duquel on va devoir vivre tous ensemble avec nos différences. Pour moi, c'est ça mon urgence. Les choses se posent un peu de façon très brouillonne. Au début, ce qui me dérangeait, par exemple, le parvis du TNA, ça me dérangeait parce que c'était une espèce de défouloir où tout le monde parlait sans interaction, sans débat. Et aujourd'hui, on passe au débat. Un exemple tout con, moi, il y a 2-3 jours, j'ai pris un taxi... le soir, j'étais à 10 minutes de chez moi et finalement il m'a déposé, on est resté 2 heures dans la voiture près de chez moi à discuter, si bien que même les voisins, les gars du quartier sont venus me voir pour savoir si tout allait bien, mais cet espace, cette voiture a été l'occasion d'un débat sur la question justement du code de la famille et c'est ça qui est génial, les intérieurs, c'est là où on commence justement à dire les choses, à dire je suis différent. On est en train de se regarder et réaliser qu'il n'y a pas un Algérien type, il y a des Algériens francophones, des Algériens conservateurs, des Algériens qui sont agnostiques, voire athées. Et je crois que c'est intéressant de se dire qu'aujourd'hui, il va falloir trouver une solution pour tous vivre ensemble. Voilà, moi je suis plutôt optimiste en fait. Oui, je suis optimiste.
Bon, bah, c'est sur le mot d'optimisme qu'on va se quitter. Merci Sophia Djama, merci Hassan Mezine, merci Nadir Moknesh et Malek Bensmaïn. Donc on attend vos prochains films, hein. Je sais que vous êtes en préparation. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin, et à la réalisation, Fanny Renard. On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma, pour la rediffusion de notre émission spéciale consacrée à la représentation des minorités dans le cinéma américain. D'ici là, bonne semaine à tous.